Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Le Christ, a écrit Saint Jean, est plein de grâce et de vérité, plenum gratiae et veritatis. Et depuis le Christ, qui est la tête de l'Église, cette plénitude de grâce se répand, se répartit dans tous ses membres, dans son corps mystique, et spécialement dans ses saints. Et cela avec une variété de modalités, de nuances qui est tout à fait inouïe. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté et la perfection de l'Église. Le psaume que nous chantons le dimanche ou au fait de la Sainte Vierge le dit « Astitit regina investitu deorato circumdata varietate ». La reine, c'est-à-dire l'Église, se tient debout, revêtue d'un vêtement d'or et couverte d'une variété de joyaux, d'une variété de saints. Sans doute la sainteté consiste essentiellement dans la charité. Tous les saints vivent d'amour. Mais, dit saint Thomas dans son commentaire de Job, en chaque saint brille particulièrement une vertu, et cet éclat particulier, la promptitude avec laquelle il se porte aux actes de cette vertu, lui donne sa physionomie propre, le distingue de tous les autres, et vérifie en lui ce que l'Église dit de chacun de ses confesseurs, « Non est in ventus similis illi ». Il ne s'en trouve aucun qui lui soit semblable. Alors nous devons nous poser la question, quelle est la marque propre de la sainteté de saint Thomas d'Aquin? Quelle est sa note particulière, la note qui le caractérise? Le pape Pie XI, dans l'encyclique Studiorum Ducem, qu'il a publié à l'occasion du 6e centenaire de la canonisation de saint Thomas, donc en 1923, dit que ce qui apparaît en premier lieu chez saint Thomas, c'est ce qui fait voir en lui une certaine ressemblance avec les natures angéliques. Nous voulons dire, dit le pape, cette chasteté qu'il avait gardée intacte dans l'épreuve d'un pressant péril. Il fut jugé digne d'être saint par les anges d'une ceinture mystique. Et il ajoute, en même temps qu'une si grande pureté, il avait une égale aversion des biens passagers et le mépris des honneurs. La pureté de l'âme et du corps, la pauvreté volontaire, dont saint Thomas d'ailleurs a écrit qu'elle est le fondement de la perfection de la charité. Le mépris des honneurs, voyons ce qui frappe au premier regard dans la vie de saint Thomas. Et en effet, Guillaume de Tocqueau, qui est le biographe de saint Thomas, a pu écrire « De noble race, il pouvait posséder les richesses. Tant qu'il en eut, il les méprisa. Et quand il n'en eut plus, il n'en demanda pas. Pas plus d'ailleurs qu'il ne demanda ou qu'il n'accepta l'évêché de Naples qu'on lui proposa plusieurs fois. » Mais Tocqueau s'empresse d'ajouter « À l'exemple de Salomon, il ne demanda rien d'autre que la sagesse divine qu'il aimait. » Et de fait, l'Église, dans l'épître que nous venons de lire, applique à saint Thomas ce texte de Salomon. « L'esprit de sagesse est venu sur moi. Je l'ai préféré au sceptre et aux couronnes, et j'ai estimé de nul prix les richesses à côté d'elles. J'en lui ai pas égalé les pierres précieuses, car tout l'or du monde n'est auprès d'elle qu'un peu de sable. » Et voilà, en effet, la note distinctive de la sainteté de saint Thomas, celle qui vraiment l'emporte au fond, c'est la sagesse. Et d'ailleurs, Pie XI le souligne tout de suite après dans Studiorum Ducem. Ce qui distingue surtout la sainteté de Thomas, dit-il, c'est ce que saint Paul appelle sermo sapientiae, la parole de sagesse. Et aussi, cette union des deux sagesses, l'acquise et l'infuse, ainsi qu'on les appelle, avec quoi s'harmonisait si bien l'humilité, le goût de la prière et l'amour de Dieu. Sermo sapientiae, la parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est que ce sermo sapientiae auquel Pie XI, dans lequel Pie XI nous montre la note caractéristique de saint Thomas? Eh bien, saint Thomas l'explique lui-même en commentant le passage de saint Paul qui en parle dans la première épître aux Corinthiens. Le sermo sapientiae, la parole de sagesse, dit-il, appartient, comme le sermo scientiae ou le don des langues, ou encore la grâce des guérisons, la grâce des miracles, à l'ordre des grâces gratis datées, ce qu'on appelle les grâces gratis datées, ou autrement dit les charismes. Ces grâces gratis datées sont des grâces distinctes de la grâce sanctifiante, de la grâce qui nous rend saints, qui nous rend justes. Les grâces gratis datées manifestent la présence du Saint-Esprit dans l'Église ou dans celui à qui elles sont faites. Et elles sont données en vue de l'utilité d'autrui, pour le bien commun de l'Église. Quand elles n'ont pour but que de montrer la présence du Saint-Esprit dans l'Église, elles peuvent se rencontrer même chez un pécheur. Mais quand elles ont pour but de montrer cette divine présence en celui qui les a reçues, alors elles ne se rencontrent que chez les saints. Et c'est le cas de saint Thomas. Alors qu'est-ce qu'opère cette parole de sagesse? Eh bien, en celui qui la reçoit, c'est saint Thomas qui continue, la parole de sagesse donne la capacité à enseigner les vérités de la foi. Elle a pour but de rendre l'homme capable de communiquer aux autres ce qui a trait à la connaissance des choses divines. Et cela dans la mesure nécessaire à l'instruction des fidèles et à la réfutation des adversaires de la foi. Or, c'est là, de toute évidence, la note personnelle la plus caractéristique de saint Thomas. Nul plus qu'en lui n'a instruit l'Église et confondu ses adversaires, n'a enseigné la vérité et réfuté les erreurs. Et d'ailleurs, pas seulement les erreurs de son temps, mais aussi, si l'on peut dire, les erreurs de tous les temps, parce qu'il a parfaitement discerné et mis en lumière les principes mêmes de l'erreur. Et c'est pour avoir admirablement rempli cette tâche que les papes, notamment Saint Pie V, celui qui l'a proclamé docteur, et Léon XIII dans Eterni Patris, c'est pour cette raison que ces papes l'ont glorifié si hautement. Jean XXII même, le pape qui l'a canonisé, n'a pas hésité à déclarer en plein consistoire en 1318, donc devant tous les cardinaux, cette parole mémorable: saint Thomas a donné plus de lumière à l'Église que tous les autres docteurs. Dans ses livres, un homme apprend plus en un an que pendant toute sa vie dans l'enseignement des autres. Et de fait, on a beau lire une foule d'auteurs, philosophes, théologiens, même excellents, on a beau vivre dans leur commerce, on n'atteindra jamais cette consistance doctrinale que donne très vite le contact direct avec saint Thomas. Et cela d'autant plus que saint Thomas contient et condense tous ses devanciers en ce qu'ils ont de meilleur. Pie XI toujours dit de lui qu'il a eu en partage l'intelligence de tous les anciens docteurs parce qu'il les a souverainement vénérés. Alors saint Thomas est vraiment un sage, un maître de doctrine. Il a laissé le corps de doctrine le plus riche, le plus synthétique, le plus achevé que l'Église possède. Et c'est pour cela que l'Église a fait sienne sa doctrine et l'a proclamé le docteur commun. Et en disant cela, elle a voulu souligner l'origine surnaturelle de la science de saint Thomas. D'ailleurs, lui-même l'a attesté à son ami saint Bonaventure, lorsqu'il a affirmé qu'il avait plus appris au pied du crucifix que dans les livres. Et c'est également ce qu'a voulu dire Jean XXII lorsqu'il a déclaré que saint Thomas a fait autant de miracles qu'il a écrit d'articles. Quod scripsit articulos, tot fecit miracula. Alors Pie XI a bien raison de dire dans Studiorum Ducem que ce sermo sapientiae, cette parole de sagesse louée par saint Paul, en quel autre docteur fut-elle plus brillante que dans le docteur angélique? Dans aucun autre. C'est vraiment sa note. Ce n'est pas assez pour lui d'instruire par son enseignement les esprits des hommes. Il a aussi grand soin d'amener les cœurs à rendre amour pour amour à Dieu, créateur de toutes choses. Car chez saint Thomas, le bien des âmes par la manifestation de la vérité et la manifestation d'une sainteté exemplaire, ce sont deux choses qui sont étroitement unies. Parce que chez lui, le sermo sapientiae, la parole de sagesse, est la suite du don de sagesse et d'une charité suréminente. Et c'est ce que dit justement Pie XI. Après avoir déclaré que la note distinctive de la sainteté de saint Thomas consistait dans le sermo sapientiae, il ajoute aussitôt « et aussi dans cette union des deux sagesses, l'acquise et l'infuse, ainsi qu'on les appelle ». Qu'est-ce donc que ces deux sagesses, la sagesse acquise et la sagesse infuse ? La sagesse acquise, dont parle ici Pie XI, est même double. C'est d'abord la sagesse philosophique, la connaissance de tout ce qui est, par les causes les plus élevées, la connaissance qui considère Dieu comme cause première, exemplaire, efficiente, finale de tout ce qui est. Mais cette sagesse acquise, c'est aussi et surtout la sagesse théologique, acquise par le travail discursif de la raison humaine, mais qui se développe non plus à partir des principes premiers connus par les lumières de la raison humaine, comme la sagesse philosophique, mais à partir de la révélation divine et sous la lumière de la foi. Et cette sagesse théologique requiert, elle aussi, le labeur humain, mais elle s'exerce sur les vérités de la foi, pour les élucider, les expliciter, en dégager tout ce qu'elles contiennent, et puis pour les défendre. Et évidemment, dans ces deux domaines, saint Thomas a particulièrement brillé. Il a su distinguer et unir parfaitement ces deux sagesses acquises, la philosophique et la théologique, comme aucun homme ne l'avait fait avant lui. Il les a maîtrisées avec une puissance et une virtuosité inégalées. On peut dire vraiment qu'il est le plus savant des saints. Mais sans l'autre sagesse, la sagesse infuse cette fois, ces deux sagesses acquises ne seraient encore que peu de choses, et Thomas d'Aquin ne serait pas saint Thomas, le plus saint des savants. La sagesse infuse, c'est le don de sagesse, gratuitement donné par Dieu, avec la grâce sanctifiante et avec la vertu de charité. C'est le plus haut des dons du Saint-Esprit. C'est d'elle que procède principalement la contemplation que les théologiens appellent « infuse ». Cette connaissance savoureuse, amoureuse de Dieu, que nul effort ascétique ne peut produire ni mériter en justice, mais que Dieu donne aux âmes qui ne refusent rien aux exigences de sa grâce. C'est une sagesse qui n'est pas d'ordre conceptuel, qui n'a plus rien d'humain, mais qui juge des choses divines par expérience intérieure, qui fait voir et goûter de l'intérieur combien Dieu est bon, comme dit le psaume. Gustate et videte quoniam suavisest dominus. Goûtez et voyez combien le Seigneur est suave. C'est par excellence la sagesse des saints, laquelle n'est pas seulement surnaturelle en raison de son objet, ce qui déjà est le cas de la théologie, mais aussi en raison de l'amoureuse expérience surnaturelle sur laquelle elle se fonde. Or, dit Pie XI dans Studiorum Dulcem, ce don de sagesse a eu un accroissement continuel en saint Thomas, si bien que dans son âme, ces deux sagesses, l'acquise et l'infuse, s'harmonisaient parfaitement, se prêtaient à un merveilleux concours réciproque. Tout chez lui, dans sa vie comme dans son œuvre, était subordonné à la charité, la plus haute des vertus, et au don de sagesse, le plus haut des dons, qui juge des choses divines par une sorte de connaturalité avec elle. Car s'il ne faut pas confondre le sermo sapientiae, la parole de sagesse, dont Pie XI nous a dit que c'était la note caractéristique de saint Thomas, ce sermo sapientiae qui est un charisme, s'il ne faut pas le confondre avec le don de sagesse qui, lui, relève de la grâce sanctifiante, il y a cependant une forte correspondance entre les deux. Le sermo sapientiae, la parole de sagesse, est l'accompagnement extraordinaire d'un don de sagesse éminent. Et c'est ce qui se passe en saint Thomas. Tous les justes reçoivent le don de sagesse, dans la mesure qui est nécessaire à leur propre sanctification. Mais, dit saint Thomas, certains le reçoivent à un plus haut degré. D'abord quant à la contemplation, pour connaître certains mystères très élevés, et pour pouvoir les manifester à d'autres, Et ensuite, quant à la conduite de la vie selon les règles divines, pour pouvoir non seulement se diriger eux-mêmes, mais aussi les autres. Et ce degré de sagesse, continue saint Thomas, n'est pas commun à tous ceux qui ont la grâce sanctifiante, mais il appartient plutôt aux grâces gratuitement données. Quand ce don de sagesse est éminent, il est accompagné de ce charisme du sermo sapientiae, la parole de sagesse qui permet de communiquer aux autres tous ces trésors contemplés en Dieu. Alors en disant cela, finalement, saint Thomas a dressé son propre portrait. Et c'est pourquoi dans son œuvre, il ne se contente pas d'énoncer des vérités quelconques, si belles soient-elles. Ce qu'il transmet, c'est vraiment le fruit de sa contemplation amoureuse des vérités divines. « Contemplari et alis tradere contemplata ». L'expression est de saint Thomas, elle est devenue la devise de l'ordre des prêcheurs. Déjà, l'enfant à qui sa nourrice n'avait pas pu arracher le bout de parchemin qui contenait la salutation à Marie, Marie qui est le trône de la sagesse, ou quand à l'âge de 5 ans, il répétait à son maître la question qu'il devait résoudre si lumineusement plus tard, qu'est-ce que Dieu ? Dès ce moment, cet enfant prédestiné était saisi par l'amour divin et aspirait à recevoir en abondance la sagesse de Dieu. Et rien ne montre avec plus d'éclat l'ascendant de cette charité et de cette sagesse sur son âme que l'office du Saint-Sacrement composé par lui. Relisez cet office, c'est vraiment le fruit d'une sagesse merveilleuse, d'une sagesse purement surnaturelle. Ce qu'a été pour lui l'amour de notre Seigneur rendu vivant dans le sacrement, sa voix mourante lorsqu'il était sur son lit de mort, le fait comprendre lorsque, recevant le viatique, il dit « Je te reçois, prix de la rédemption de mon âme, pour l'amour de qui j'ai étudié, j'ai veillé et j'ai travaillé. » C'est tout saint Thomas qui est résumé dans cette parole. Un dernier mot, la sagesse et la paix sont sœurs. Car la paix, la tranquillité de l'ordre, c'est la définition qu'en donne saint Augustin et après lui saint Thomas, la paix, c'est la béatitude propre à la sagesse. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. La sagesse a en effet pour tâche de saisir l'ordre ou de le faire. Sapientis est ordinare. Et faisant cela, elle produit la paix. Et cela explique non seulement l'ordre merveilleux qui brille dans toute l'œuvre de saint Thomas, mais aussi le calme et la sérénité de ses écrits. Même au plus fort des luttes doctrinales, même au plus fort des controverses, l'âme de saint Thomas, parce qu'elle était remplie du don de sagesse, a toujours été parfaitement pacifiée. Saint Thomas, c'est donc le frère prêcheur type, le fils le plus accompli de saint Dominique, en qui Dieu s'est plu à parfaitement réaliser l'idéal dominicain. Car ce n'est pas parce que son influence personnelle et son rayonnement doctrinal auraient débordé le cadre étroit de sa famille dominicaine qu'on l'a proclamé le docteur commun de l'Église. C'est parce qu'il est le premier dans l'ordre de la vérité, celui qui a le mieux réalisé la mission que le pape Honorius III a fixée à l'ordre des prêcheurs, lorsqu'il déclara que les prêcheurs seraient les champions de la foi et les vraies lumières du monde. Eh bien, saint Thomas est par excellence ce champion de la foi et cette vraie lumière du monde. Alors prions pour que, comme le dit son oraison, nous comprenions avec notre intelligence ce qu'il a enseigné et, en l'imitant, nous fassions ce qu'il a fait. Quae docuit intelligere et quae egit imitatione complere. Demandons cette grâce par l'intermédiaire de la bienheureuse Vierge Marie, la reine et le trône de la divine sagesse que saint Thomas a tant aimé et qu'il a si bien loué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.